Bon, bah, je crois qu'on va commencer. Alors, d'abord, on va vous présenter la tribune.
Alors, moi, je suis Jean-Jacques Lamy, donc militant de lutte ouvrière. À ma gauche, Georges Millot, donc militant de lutte ouvrière à l'hôpital Beaujon, donc qui fait partie de l'APHP, Assistance publique des hôpitaux de Paris. À côté de lui, Claire Rocher, qui est militante de lutte ouvrière au CHU de Dijon. Au bout de la table, c'est Nathalie Malol du CHU de Marseille, militante de lutte ouvrière aussi. À la droite de celui qui est à ma droite, Ghislaine Joachim Arnaud, militante de combat ouvrier du CHU de Martinique. Et enfin, tout à fait au bout, Marie-Christine Bernin du CHU de Lyon. Donc comme vous voyez, on est assez bien représenté de tous ces points de vue. Alors, c'est moi qui vais commencer. Pour donner, je ne suis pas de CHU. Simplement lutte ouvrière. Alors, le cadre général de cette discussion, hein, on a donné comme titre de cette discussion l'attaque contre les services publics, l'exemple, en prenant l'exemple donc des hôpitaux, parce que ça nous a paru un exemple particulièrement significatif de cette politique globale du gouvernement. Depuis 30 ans, parce qu'il ne trouve plus dans le développement de la production de quoi faire suffisamment progresser et même simplement maintenir leurs profits, les patrons, les grands et les petits, ont considérablement aggravé l'exploitation des travailleurs. Alors, cette aggravation de l'exploitation des travailleurs, ça se fait évidemment directement dans les entreprises, par les licenciements, la multiplication des contrats précaires, l'écrasement des salaires et l'aggravation des conditions de travail. Mais cette aggravation de l'exploitation, elle se fait aussi indirectement, mais aussi fortement, d'une certaine façon, par la mainmise du grand patronat, la mainmise de la bourgeoisie sur les caisses publiques, sur toutes les caisses publiques, sur toutes les caisses de la protection sociale, par l'intermédiaire des gouvernements à leur service. Avec évidemment pour conséquence la réduction des moyens des services publics utiles à la population, le pillage des budgets de la protection sociale, l'augmentation des impôts indirects et des taxes frappant surtout les classes populaires. Et bien sûr, cette politique n'est pas nouvelle, mais depuis 2007, et avec l'aggravation de la crise, cette politique en fait qui consiste à puiser dans la poche des travailleurs pour subventionner la bourgeoisie, cette politique a pris une ampleur sans précédent. Les dépenses de santé et les ressources des caisses d'assurance maladie ont été les premières cible de cette politique, qui est une politique en quelque sorte de redistribution à l'envers. L'État, au fil du temps, a transféré au budget de l'assurance maladie des travailleurs salariés une multitude de charges, de dépenses. Ce que je veux dire, c'est que le fait que l'État puise dans les caisses de la sécurité sociale, c'est pas nouveau, ça date pas de l'épisode d'aggravation de la crise qu'on est en train de naître. Par exemple, depuis 1958, le budget de l'assurance maladie finance, par exemple, la formation des médecins à l'hôpital et une partie de leur cotisation sociale. Donc on finance leur formation, ils ne resteront pas tous à l'hôpital, d'ailleurs certains iront faire fortune dans les quartiers riches pour se soigner les gens qui ont les moyens. Mais enfin, c'est quand même les travailleurs salariés qui les financent, via l'assurance maladie, qui financent leurs études. C'est l'État qui leur fait ce cadeau, mais encore une fois, ce sont les assurés sociaux qui le payent. Alors c'est aussi l'assurance maladie qui finance les écoles d'infirmières, la recherche médicale et même une partie de la recherche pharmaceutique. Et tout cela coûte actuellement à l'assurance maladie, tout cet ensemble, plus de 10 milliards d'euros par an. Alors c'est aussi l'assurance maladie et non l'État qui a financé en grande partie dans les années 60 jusqu'au milieu des années 70, le grand programme de construction et de modernisation des hôpitaux. L'État finance la construction des casernes, des prisons, et avec les collectivités locales, la construction des écoles, mais pas celle des hôpitaux. Ça, c'est aux travailleurs salariés, et aux travailleurs salariés seulement, de le payer. Alors, ça c'est le passé. Avec la période de marasme et de crise de l'économie capitaliste, qui a commencé au milieu des années 70, l'utilisation par l'État des fonds de l'assurance maladie a pris une autre dimension. Elle est devenue progressivement un moyen de subventionner directement le patronat. À partir de 1974, le développement du chômage et la pression sur les salaires de ceux qui travaillaient se sont traduits par une diminution des rentrées de cotisation, donc nécessairement une diminution des ressources de l'assurance maladie. À partir de cette date, donc 1974, le budget de l'assurance maladie afficha un fort déficit. L'État, qui avait jusque-là accompagné la croissance des dépenses de santé, grâce encore une fois aux cotisations des travailleurs, prétendit tout d'un coup qu'il y avait trop d'hôpitaux et que les Français se soignaient trop. Et à partir de là, et jusqu'à aujourd'hui, le déficit, le fameux trou de la sécurité sociale et la progression des dépenses de santé ont servi de prétexte à une multitude de plans de soi-disant sauvetage destinés à limiter ces dépenses. Évidemment, le fait que le budget de la santé, que le budget de l'assurance, de la sécurité sociale et que même le budget de l'assurance maladie soient des budgets isolés avec leurs dépenses et leurs recettes propres, c'est bien commode pour l'État, car cela lui permet, après avoir puisé largement dans la caisse et après l'avoir vidé, avec la complicité d'ailleurs des industriels de la santé, de crier au déficit, de crier au risque de faillite et de justifier ainsi des mesures de restriction toutes les fois qu'il en a besoin, toutes les fois que le grand patronat en a besoin. Les gouvernements, de droite comme de gauche, qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, ne s'en sont pas privés. En 1977, le gouvernement Barre, ça évoque peut-être rien pour les plus jeunes, et c'est pas forcément un nom à retenir. Donc, le problème, c'est que c'était la première fois. Le gouvernement Barre présentait un plan dit de redressement. C'était le premier d'une longue série. Et il y en a eu au total 19 jusqu'au plan Juppé en 1996. Pratiquement un plan chaque année, sauf les années électorales. En 1979, la droite décida de faire payer une cotisation d'assurance maladie aux retraités, qui jusque-là ne la payaient pas. Et la gauche, en 1982, décida de faire, elle, cotiser les chômeurs sur leurs indemnités. Jusqu'en 1996, surtout, un plan sur deux s'est traduit par une augmentation des cotisations d'assurance maladie. Mais attention, presque toutes les hausses portèrent sur la seule part salariale des cotisations. La part patronale, elle, fut gelée, c'est-à-dire ne bougea plus, à partir de 1984, ou à peu de choses près. Ça veut dire que depuis, son taux n'a plus bougé. Parallèlement, pour alimenter les caisses de l'assurance maladie, des taxes nouvelles ont été créées et régulièrement augmentées, mais ce sont là encore essentiellement les travailleurs qui ont été mis à contribution. Jusqu'en 90, les augmentations de cotisations, donc, et les diminutions de remboursement avaient permis de contenir le déficit de la sécurité sociale et de l'assurance maladie en particulier. Mais à partir de 1991, elles ne suffirent plus. Et pour boucler son budget, la sécurité sociale a dû emprunter sur les marchés financiers. D'année en année, les dettes de la sécurité sociale se sont accumulées jusqu'à aujourd'hui. Et simplement en 2008, par exemple, les frais financiers qui sont engendrés par cette dette ont représenté plus de 4 milliards d'euros dans l'année. En 1991, un premier ministre socialiste, Rocard, inventa la CSG, Contribution Sociale Généralisée. À ce moment-là, c'était pour financer la branche famille de la Sécurité Sociale, ça 91. En 95, un autre premier ministre, mais c'est Juppé, premier ministre de Chirac, augmenta cette CSG d'un point et l'affecta au financement de l'assurance maladie. En contrepartie, d'ailleurs, la part salariale de la cotisation d'assurance maladie était diminuée d'autant. Alors, je continue les éphémères. En 1998, un autre Premier ministre, socialiste à nouveau celui-là, Jospin, poursuivit sur la lancée de Juppé. Et la CSG fut à nouveau augmentée. cette fois de plus de 4 points. En contrepartie, la part salariale de la cotisation maladie était à nouveau réduite. Le fait d'avoir recours à la CSG pour imposer les travailleurs pour leur maladie, plutôt qu'à l'impôt sur le revenu, n'était pas neutre, en fait, socialement. C'est pas simplement on change l'étiquette. Parce qu'à la différence de l'impôt sur le revenu, qui est un impôt à taux, ce qu'on appelle un impôt à taux progressif, c'est-à-dire que c'est un impôt qui, normalement, taxe plus fortement les hauts revenus. Mais à la différence de ça, la CSG, c'est un impôt proportionnel, c'est-à-dire qu'avec un seul taux, qui s'applique de la même façon, au même niveau, pour les riches et pour les pauvres. Et elle s'applique même à ceux qui, parce que leurs salaires sont trop faibles, ne payent pas d'impôt sur le revenu. Et d'ailleurs, au total, plus de 80% des recettes de la CSG aujourd'hui proviennent des prélèvements sur les revenus des travailleurs, des retraités et des chômeurs. Par les cotisations comme par les taxes, le financement de l'assurance maladie allait peser de plus en plus sur les seuls travailleurs, les retraités et les chômeurs, et de moins en moins sur les patrons, dont la participation au financement de l'assurance maladie ne va cesser de se réduire. Grâce, notamment, et pour beaucoup, aux exonérations de cotisations. Parce que sous prétexte de lutter contre le chômage des jeunes, le chômage des vieux, le chômage des travailleurs non qualifiés, le chômage de certaines zones particulières, etc., les mesures exonérant les patrons de cotisations sociales avaient commencé à s'accélérer à partir de la fin des années 70. Bien qu'elles aient largement fait la preuve de leur inefficacité, évidemment, à réduire le chômage. Entre 1993 et 2002, sous le gouvernement de Balladur d'abord, sous celui de Jospin ensuite, le montant des exonérations de cotisations patronales fut multiplié par 6. Tous les gouvernements depuis, de Raffarin à Fillon, en passant par Villepin, les ont reconduites et même en ont rajouté. Depuis 2008, chaque année, le montant de ces exonérations de cotisations a dépassé régulièrement, dans l'année donc, les 30 milliards d'euros. D'exonération en exonération, les cotisations patronales de sécurité sociale, qui représentaient à l'origine 33% du salaire brut, n'en représentaient plus, au bout de 20 ans, que 4%. Alors bien sûr, depuis 1993, l'État s'était engagé auprès de la Sécurité sociale à compenser les pertes de recettes liées à cette exonération de cotisations. Mais d'une part, il ne l'a fait qu'en partie, car ces cadeaux aux patrons non compensés ont représenté régulièrement chaque année depuis 2000 plus de 2 milliards d'euros de pertes nettes, de trous, pour le budget de la Sécurité sociale, qu'elle a dû financer à nouveau par des emprunts sur les marchés financiers. Cela dit, compenser ou pas, ces exonérations de cotisations en faveur des patrons constituent un vol. À double titre. D'abord, parce que les cotisations à la sécurité sociale ne sont rien d'autre qu'un salaire différé, géré collectivement. Et c'est vrai, évidemment, de la part salariale de ces cotisations, mais c'est vrai aussi de la part patronale. Et du coup, réduire les cotisations sociales patronales, voire les annuler, c'est en fait réduire les salaires. Réduire la part des richesses produites qui revient aux travailleurs pour augmenter celle qui revient aux patrons. Et quand ces exonérations sont compensées par l'État, c'est comment ? Ben c'est par la création de nouvelles taxes ou par l'augmentation d'anciennes et donc par un prélèvement supplémentaire sur les revenus des travailleurs. Dans le secteur de la protection sociale et de l'assurance maladie en particulier, le lien est direct entre ce qui est pris d'un côté dans la poche des travailleurs, par l'augmentation des cotisations, des prélèvements fiscaux, etc., et ce qui est donné de l'autre aux patrons par la diminution de leurs cotisations et de leurs impôts. Alors, parallèlement à toutes ces mesures qui étaient donc destinées à augmenter les recettes de l'assurance maladie, l'État a cherché à réduire ses dépenses. Réduire ses dépenses comment ? En s'en prenant par exemple aux trusts pharmaceutiques ou aux trusts médico-industriels ? Non, pas du tout. Mais il s'en est pris d'une part aux malades eux-mêmes, par la diminution des remboursements, et d'autre part aux hôpitaux publics, par le rationnement de leurs crédits. En ce qui concerne les malades, le ticket modérateur, c'est-à-dire la part des frais médicaux qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, qui était fixé à 25%, pratiquement dès l'origine du régime, de ce régime social, c'est-à-dire en 1945, a été régulièrement augmenté à partir de 1967. Aujourd'hui, par exemple, ce ticket modérateur, qui était de 20% à l'origine, il est de 70% si vous allez chez un médecin qui n'est pas votre médecin déclaré à la Sécurité sociale, médecin traitant. 70%. Le forfait hospitalier, maintenant, créé en 83 par Bérégovoy, gouvernement de gauche, ministre des Affaires sociales dans le gouvernement Morois, a subi depuis, c'est-à-dire en 27 ans, au total 16 augmentations. D'environ l'équivalent de 3 euros à l'origine, il a été porté depuis janvier 2010 à 18 euros. Les premières mesures de déremboursement ou de baisse de remboursement de médicaments datent de 1977, et la dernière est en cours. Les déremboursements auraient concerné depuis 2006 au total plus de 50% des médicaments mis sur le marché. Alors pour être déremboursés, ces médicaments ont été généralement présentés comme inefficaces, voire dangereux. Ben, ils ont quand même continué à être vendus par les labos pharmaceutiques, mais plus chers, parce que du coup, leur prix était libéré. Ces médicaments remboursés, en plus, furent souvent remplacés par des médicaments prétendument nouveaux, mais de ce fait plus cher, mais remboursable. Au bout du compte, baisse de remboursement, les trusts pharmaceutiques, eux, n'y perdirent rien, bien au contraire. L'affaire du médiateur a montré d'ailleurs que certains médicaments, à la fois inefficaces et dangereux, ont échappé longtemps au déremboursement et même aux baisses de remboursement. Question de relation. Dans leur volonté de réaliser des économies sur le dos des malades, les gouvernements successifs ont fait flèche de tout bois pour dénicher la plus petite source d'économie. Petite pour le gouvernement, mais pas pour les malades. La liste des mesures qui témoignent de ce harcèlement est longue, et je ne peux pas toutes les citer. Parmi les plus récentes, il y a eu en 2005 la participation forfaitaire de 1 euro acquittée sur chaque consultation. Et en 2008, des franchises de 0,50 euros sur chaque boîte de médicaments, chaque soin infirmier, et de 2 euros sur chaque transport médical. Et il y aurait bien d'autres choses à évoquer. Hein, la chasse aux arrêts maladie, par exemple. Ça, vous ne le savez peut-être pas, mais maintenant, pour calculer les indemnités de maladie, on va les calculer sur 365 jours au lieu de 364. Ben, ça va faire une petite baisse. Mais apparemment, pour le gouvernement, c'est bon à prendre. La sécurité sociale n'a jamais supprimé les inégalités d'accès aux soins. Mais surtout depuis le début des années 90, la situation n'a évidemment fait que s'aggraver. Aujourd'hui, une minorité de malades, les plus gravement touchés, ceux qui sont reconnus, ce qu'on appelle en affection de longue durée, continuent à être remboursés à 100% du moins pour l'essentiel de leurs soins. Mais pour les autres, entre 2001 et 2008, la part des dépenses de santé qui ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie a augmenté globalement de 50%. Dans le même temps, le coût des assurances complémentaires s'est envolé et les dépassements d'honoraires se sont généralisés. Résultat, une part croissante de la population qui n'a pas les moyens de souscrire à une assurance complémentaire et qui n'est pas assez pauvre pour bénéficier de la couverture maladie universelle, s'est trouvé exclu progressivement de l'accès à tout ou partie des soins. D'après une enquête de l'UFC, parmi ces personnes, une sur trois renonce chaque année à des soins pour des raisons financières. En 2008, cela concernait 8% de la population, soit 5 millions de personnes. Alors l'autre cible des politiques de réduction des dépenses de santé se fit, évidemment, et ce sont les hôpitaux. Parce qu'ils représentent une part importante des dépenses de santé, ils ont été dès l'origine spécialement visés. Depuis 1976, les différents gouvernements, de droite comme de gauche, ont accumulé les mesures destinées à freiner, puis à réduire les dépenses de fonctionnement et de personnel des hôpitaux publics. Au total, entre 1981 et 2008, le nombre de lits des hôpitaux publics aurait été réduit d'un tiers à l'échelle nationale, soit un peu plus de 110 000 lits. Le manque de personnel, le manque de matériel, le manque de moyens se sont traduits par un allongement des délais d'attente pour les patients, pour les examens, les consultations, les hospitalisations, les opérations, etc. mais les réformes des hôpitaux engagées depuis 1995 ont considérablement aggravé cette situation. Il y en a eu 5 au total dans les 15 dernières années. Depuis 1996, chaque année, un taux d'évolution globale des dépenses d'assurance maladie est voté par le Parlement. Ça remplace les anciens plans. Donc là, on a un plan chaque année. Et ce plan est décliné ensuite, secteur par secteur. Et donc chaque année, les hôpitaux se voient imposer par avance un volume de crédit à ne pas dépasser, et donc un volume d'économie à réaliser. Ce sont les agences régionales de l'hospitalisation créées en 1996, puis les agences régionales de santé qui les ont remplacées depuis 2009, qui répartissent les budgets entre hôpitaux et entre hôpitaux et cliniques privées. Et ces agences ont tout pouvoir pour imposer, en cours de route, par le gel de crédit, le respect des économies prévues par la loi. Région par région, un important mouvement de restructuration du système hospitalier s'est traduit par des fermetures, des fusions, des partages ou des transferts d'activités entre structures publiques, entre structures privées, mais aussi entre structures publiques et privées. Avec un objectif affiché, la convergence du public et du privé. Oui, donc c'est un objectif affiché auquel le gouvernement d'ailleurs tient beaucoup, la convergence du public et du privé. Ça sonne bien. En fait, de convergence, quand le rapprochement suppose une répartition d'activités, comme par hasard, les secteurs considérés comme non rentables vont à l'hôpital public, tandis que ceux qui sont considérés comme profitables vont à la clinique privée. C'est la convergence du public et du privé. Une réforme de l'organisation interne des hôpitaux a aussi été engagée en plusieurs étapes, avec comme objectif explicite et même comme slogan, on peut dire, de gérer les hôpitaux comme des entreprises. Alors pour cela, les pouvoirs des directeurs ont été renforcés. Et pour appliquer cette nouvelle politique de rentabilité d'abord, des spécialistes, des cadres issus de l'industrie privée et de cabinets d'audit ont été appelés à la rescousse. Comme par exemple Rosemary Van Lerberg, qui dirigea l'assistance publique Hôpitaux de Paris de 2002 à 2006, après avoir dirigé les ressources humaines, puis la filiale l'Alsacienne, ce sont des biscuits, du groupe Danone. Celle qui lui a succédé a fait, avant de prendre la direction de l'assistance publique, toute sa carrière, je crois, au marketing de la SNCF. À partir de 2005, un nouveau mode de financement des hôpitaux aussi est entré en application, ça s'appelle le financement à l'activité. C'est pas très simple, vu de l'extérieur. Mais en gros, les maladies sont classées en grandes catégories, et à chaque catégorie est associé un tarif qui est fixé par les pouvoirs publics, qui tient compte en principe du type d'intervention, de la durée du séjour, etc. Ce système de financement et la fixation de ces tarifs par l'État, par les pouvoirs publics, aboutit de fait que pour les hôpitaux et pour les cliniques, il y a maintenant des maladies rentables et des maladies qui ne le sont pas. Et ces dernières, ces maladies qui ne sont pas rentables, sont justement celles qui sont prises en charge essentiellement par l'hôpital public et très peu par les cliniques. Le médecin d'un grand hôpital parisien, qui s'appelle André Grimaldi, explique ainsi, « Afin de gagner de l'argent avec le financement à l'activité, il faut de manière générale raccourcir les durées d'hospitalisation. » Vu comme ça, c'est pas très rassurant. Et il cite le cas d'un collègue qui a développé un logiciel permettant de calculer la rentabilité de chaque malade au jour le jour et de fixer ainsi sa date de sortie le jour où sa prise en charge n'est plus rentable. Il faut savoir que la réforme a même prévu d'intéresser sous forme de prime le personnel, cadre, médecin, infirmière, etc. à la réalisation d'économies. Ceci pour dire que le personnel en question n'est pas forcément d'accord pour appliquer cette politique aussi facilement. Dans les faits, la mise en place du financement à l'activité s'est traduite dans un nombre croissant d'hôpitaux publics par l'apparition, à partir de 2006, d'un déficit. L'hospitalisation privée, elle, n'a pas rencontré les mêmes problèmes. L'annonce de cette réforme du financement de l'hospitalisation s'est traduite, paraît-il, par un afflux de capitaux, de fonds d'investissement dans le secteur. Comme quoi la maladie aussi peut devenir un objet de spéculation. En 2007, alors que les hôpitaux publics affichaient globalement pour l'année un déficit de 680 millions d'euros, la Générale de Santé, premier groupe de cliniques privées en France, cotée en bourse, distribuait à ses actionnaires au total 425 millions d'euros de dividendes. Donc, déficit des hôpitaux publics, de tous les hôpitaux publics, 680 millions d'euros, et 425 millions aux actionnaires du groupe de la Générale de Santé. Pour combler leur déficit, en fait, les hôpitaux n'ont que deux possibilités. Abandonner des activités jugées rentables, mais ce sont celles qui font partie des missions de l'hôpital public, et surtout réduire la masse salariale, c'est-à-dire diminuer encore le personnel. Et c'est évidemment le but. Selon la Fédération hospitalière de France, en 2002, les suppressions d'emplois ont représenté plus d'un départ à la retraite sur quatre. Plus de 9 800 emplois ont été ainsi supprimés, dont près de 5 000 personnels soignants. Et au vu des prévisions de dépenses autorisées pour 2011, toujours selon la Fédération hospitalière de France, l'effort d'économie demandé suppose la suppression de 15 000 emplois supplémentaires. Alors, pour conclure, et avant de passer la parole à mes camarades, je dirais que cette politique en matière de santé est bien significative de la politique de l'État dans cette période de crise pour tout ce qui concerne les services publics utiles à la population. C'est une politique de classe. La croissance des dépenses de santé n'est pas due au fait que les gens se soignent trop, comme le MEDEF et le gouvernement osent le prétendre. Elle résulte des progrès de la science et des techniques médicales et de la mise au point de nouveaux traitements de plus en plus efficaces, mais de plus en plus coûteux. Et bien sûr, on ne peut que s'en réjouir. Il en est du déficit de l'assurance maladie comme de celui des caisses de retraite, et au bout du compte, comme celui du budget de l'État. Ce sont les aides sous forme de réduction d'impôts, d'exonération de cotisations sociales, de subventions directes sous prétexte de plan de relance. Ce sont ces aides destinées à permettre à la bourgeoisie de préserver et même d'augmenter ses revenus en dépit de la crise et même grâce à la crise. Ce sont ces milliards qui ont creusé le déficit de l'assurance maladie comme ils ont creusé aussi celui du budget de l'État. La réforme de l'assurance maladie, la réduction des dépenses de santé est l'un des aspects de l'offensive générale menée contre le monde du travail pour lui imposer une diminution de son niveau de vie au profit des privilégiés. Dans un pays comme la France, l'État aurait largement les moyens d'assumer la croissance des dépenses de santé comme il l'a fait jusqu'à la fin des années 70. Il aurait largement les moyens d'assurer à tous l'accès aux soins au niveau de ce que les progrès de la médecine scientifique permettent et permettront. Ce n'est pas l'accroissement des dépenses de santé qui est à mettre en cause. C'est le capitalisme, devenu un obstacle, sinon au progrès médical, du moins pour le moment à sa diffusion dans la population. Alors c'est une question de choix, mais pas de choix électoral, de choix de société. Alors, je vais continuer sur le sujet des hôpitaux, bien sûr, en passant la parole donc à Georges Millot, qui travaille donc, militant de lutte ouvrière, qui travaille donc à l'hôpital Beaujon.
Bien, bonsoir. Alors, je travaille et milite depuis de nombreuses années à l'assistance publique, hôpitaux de Paris. On dit APHP, je dirais toujours APHP. Alors, voilà, hein. Cette institution regroupe des dizaines d'hôpitaux, aujourd'hui 45 ou 37, si l'on tient compte des regroupements qui sont déjà effectués, et des milliers d'employés, 72 000 emplois non médicaux et près de 20 000 médecins ou internes. Plus précisément, je suis à l'hôpital Beaujon à Clichy. Et donc mes exemples seront tirés de cet hôpital qui ressemble à tous les autres de la PHP. Comme les autres, Beaujon appartient désormais à un groupe hospitalier nommé Paris Nord Val de Seine et composé de 5 établissements, Bichat, Beaujon, Louis Morier, Bretonneau, Charles Richet, qui ont comme particularité de n'être ni complémentaires ni les uns à côté des autres. Le nom et le logo du groupe ont fait l'objet d'un concours. Donc après ça, on ne peut pas dire que l'on ne consulte pas le personnel sur les choses essentielles. À l'intérieur de l'hôpital, les services ont été regroupés eux aussi, sous prétexte d'orientation médicale plus ou moins voisine. On appelle pôle ces associations de services. Par exemple, le pôle Tête-Cour-Hachi, TCR, comprenant neurochirurgie, ORL et orthopédie. Il y a encore peu de pôles qui associent des services de plusieurs hôpitaux d'un même groupe, mais cette organisation est précisément en train de se développer au moment où je vous parle. C'est là-dessus que portent toutes les communications des directions en ce moment. L'APHP a toujours connu des créations, des extensions et des suppressions de services. Et la recherche d'économie, je ne vais pas vous dire que c'est une nouveauté, nous avons eu à la combattre sans relâche, comme le montrent les collections de bulletins Lutte ouvrière. Mais il n'était pas toujours facile de distinguer ce qui relevait de l'évolution de la médecine, ce qui était dû à la concurrence des médecins entre eux, et ce qui résultait des choix gouvernementaux d'économie. L'histoire du début de la neurochirurgie à Beaujon dans les années 80 en est le symbole. Le service a été refait 3 fois avant son ouverture par le refus du chef de service qui s'appelait José Aboulker, son refus d'intégrer des locaux qui ne lui convenaient pas. Ça a duré 3 ans au moins. Ça a coûté une fortune, ou plus exactement 3 fortunes, à l'assistance publique. Pour faire plier la direction générale et avoir le service qu'il souhaitait, Aboulker avait son influence de compagnon de la libération. Il avait un orgueil de mandarin impressionnant. C'est le médecin le plus infect que j'ai jamais connu. Il était au PC, mais absolument mandarin. Le poids de ses relations et aussi une exigence chirurgicale que pas grand-chose ne pouvait désarmer. En tout cas, le service qui a ouvert correspondait à l'époque à ce qu'il attendait. Eh bien, on peut comparer cette fronde victorieuse d'un médecin exigeant à l'ouverture il y a 2 ou 3 ans du centre d'endoscopie, toujours à Beaujon. Il devait regrouper toutes les activités d'endoscopie dispersées dans l'hôpital. On allait ainsi remplacer tous les vieux appareils en endoscopie, tous les locaux vétustes, où on les nettoyait avec des produits nocifs. En tant que secrétaire du CHS, j'ai passé d'innombrables avis sur les gens qui bouffaient de l'acide à nettoyer les endoscopes. Bref, tout ça, ça allait être du passé. Ce serait un service de référence, on dit aujourd'hui d'excellence, en matière d'hygiène. On rentre par un bout, on sort par l'autre. Il y en a qui connaissent bien. On rentre par un bout et on avance par des locaux qui sont de plus en plus stériles. C'est le principe de la marche en avant qui fait que le propre ne croise jamais le sale. Le centre devait prendre en charge les endoscopies non seulement de Beaujon, mais aussi d'autres hôpitaux du groupe, au moins en partie. Sans doute la directrice d'alors s'était-elle dit qu'il y avait un beau projet à monter, faire valoir qu'elle supprimait des postes dans plusieurs services, voire dans plusieurs hôpitaux. Eh bien, le résultat était impressionnant. Faute de médecins, le service a failli être fermé au bout de quelques mois par la même directrice. De nombreux patients continuent au jour d'aujourd'hui à être envoyés à l'extérieur. Il manque des soignants, il manque des brancardiers. Quant à l'excellence, la fameuse excellence, elle aussi, elle a été au rabais. Des mois après l'ouverture de ce service, des endoscopes étaient toujours nettoyés ça et là dans l'hôpital. Et le comble a été, juste avant l'ouverture du service, une découverte du comité d'hygiène et de sécurité. Le local destiné à entreposer les déchets n'était pas au bout du service, mais à l'entrée du service, près de l'accueil. Loin de respecter le principe de la marche en avant, la direction avait inventé celui de la marche en arrière. Le propre était obligé de croiser le sale. Eh bien, le CHS n'a pas l'influence qu'avait José Aboulker et le service est resté tel quel. Il y a un cri du cœur, enfin, une phrase vient à l'esprit quand on pense à des choses pareilles dans les hôpitaux, c'est « et malgré tout, cela fonctionne ». Alors, « et malgré tout, cela fonctionne », c'est pas de moi, c'est un cri du cœur qui a échappé au responsable de la sécurité incendie du groupe hospitalier dont je vous parle, auquel appartient Beaujon. Voici dans quel contexte. Maîtriser un sinistre dans un hôpital, mettre les malades et le personnel à l'abri du feu, n'est jamais un jeu d'enfant. Ça exige une bonne formation du personnel, ça exige aussi du matériel qui fonctionne, des extincteurs, ce qu'on appelle des hydrants, c'est un mot anglais, c'est-à-dire les bornes et les poteaux sur lesquels les pompiers branchent leurs lances pour avoir de l'eau sous pression. Les portes coupe-feu, les alarmes automatiques, etc. Tous ces points à Beaujon laissent tellement à désirer que la commission préfectorale de sécurité vient pour la deuxième fois d'émettre un avis défavorable sur cet établissement. Il faut ajouter qu'il s'agit d'un immeuble de grande hauteur, de 12 étages, qui pourrait prendre un jour des airs de tour infernale. Or, depuis bien des années, bien avant l'avis de la commission de sécurité, les ouvriers du service technique, en particulier les plombiers, connaissent ces dysfonctionnements, les signalent à leur chef aux ingénieurs. Lorsque la question parvient au comité d'hygiène, la direction répond qu'en effet il y a des soucis, mais qu'on ne peut pas tout faire, car les crédits sont limités. Et l'incendie éventuel, lui, il va être limité? Et il y a de plus. Il y a un élément de taille qui a échappé même aux visiteurs de la commission préfectorale, qui sont pourtant dans ces métiers. En cas d'incendie, dans un immeuble de 12 étages, l'eau doit être envoyée jusqu'au 12e par une puissante pompe, on dit un surpresseur. Comme pour les groupes électrogènes, vous avez un surpresseur et derrière, en batterie, il y en a deux autres au cas où le premier tomberait en panne. Ces pompes ne devraient pas poser de problème à Beaujon, elles ont été changées il y a 2 ans et demi ou 3 ans. Eh bien aujourd'hui, 2 surpresseurs sur 3 sont hors service. En cas d'incendie dans les étages supérieurs, ben, il faudra peut-être appeler les Canadairs. La commission préfectorale n'a pas été informée par la direction de Beaujon. Peut-être que la direction de Beaujon n'avait elle-même pas été informée par les ingénieurs qui avaient la trouille. Mais les ouvriers, eux, ont fait connaître ce scandale. Ils ont utilisé à cet effet les délégués du comité d'hygiène, puisqu'ils avaient ça sous la main. Ils ont rappelé en même temps que la direction diminue sans arrêt les effectifs du service technique, de sorte qu'ils n'ont pas le temps d'assurer d'autres tâches que la maintenance du réseau d'eau potable à l'usage du personnel et des malades. Si la direction avait embauché ne serait-ce que 2 plombiers, l'entretien des surpresseurs et des hydrants aurait pu être réalisé régulièrement et sans erreur par du personnel qualifié et on n'en serait pas dans la situation où on en est. Donc, on voit la part de négligence, de je m'en foutisme, voire de cynisme chez bien des directions, des ingénieurs et des architectes qui mènent les projets. Mais il faut dire tout de suite que l'exemple vient d'en haut. Dans les conseils d'administration de la PHP, où les directeurs et les médecins rendent des comptes, siègent ce que j'appelle des monstres froids venus du ministère ou de cabinets de consultants. Leur voix compte dans ce qu'on appelle les arbitrages budgétaires, comme celle des représentants de l'assurance maladie, dans les commissions de réforme, et ils vont dans le même sens. Si ça coûte, on supprime. Le cynisme de ces cost killers est sans borne. 10 années au moins, les caissières de Beaujon ont dénoncé leurs conditions de travail épouvantables et dangereuses, leurs locaux inadaptés, leur manque d'effectifs et la conséquence de tout cela, l'attente interminable et inconfortable des patients, sans résultat notable. Et voilà qu'au siège de la paix, un des monstres froids dont je parlais se lance dans un réquisitoire contre le sort des malheureux consultants de Beaujon et propose, vous ne le devinerez pas, la suppression des caisses. Renvoyer la queue et l'entassement du hall à l'accueil de chaque consultation, voilà l'idée de génie. On supprime les emplois administratifs, on surcharge les soignants. Depuis, une ancienne caissière très combative est partie en retraite. La direction a mis à l'essai un accueil par les soignants dans deux consultations, trouvant même une justification. Quand on fait les papiers du consultant, on peut en même temps vérifier que c'est bien son identité, donc on va bien faire les soins à la bonne personne. C'est révoltant d'hypocrisie, mais ça vaudra en plus à Beaujon une meilleure note quand la commission d'accréditation passera. Donc on ne peut pas douter que la politique de restructuration de la PHP sous le nom de regroupement obéit avant tout à la logique de diminution des moyens du service public. Comme le disait crûment l'ex-directrice de Beaujon, qui avait ses défauts mais pas celui de mentir, le premier but des réorganisations de services en pôle ou d'hôpitaux en groupe est de réduire les effectifs. Moi, dans une réunion, j'avais dit ça très poliment. J'avais dit, madame, est-ce qu'on ne peut pas penser que ce projet vise quand même à diminuer l'effectif? Et elle m'avait répondu, mais vous foutez de moi, évidemment que c'est le but. Voilà, donc, puisqu'elle savait de quoi il parlait. Il s'agit d'appliquer la directive du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux sous le fallacieux prétexte de résorber le déficit des hôpitaux, mis en avant comme celui de la sécurité sociale pour justifier les sacrifices, comme tu l'as dit. À l'assistance publique, hôpitaux de Paris, dans la restructuration des 37 établissements en 12 groupes, entre 4000 et 6000 postes sont officiellement amenés à disparaître. Il s'agit d'un véritable plan social qui plonge le personnel non médical et médical dans l'inquiétude et l'accablement. La direction générale et les directions locales utilisent la même stratégie pour entretenir ce climat malsain. Après des mois de fuite, de projets, de contre-projets, le détail des restructurations n'est révélé qu'au dernier moment. Pour la direction, le devenir des personnels est la dernière roue du carrosse. La psychiatrie de Beaujon devait disparaître pour grossir celle de deux établissements du même groupe, Louis Mourier et Bichat. Le personnel a passé des mois dans l'incertitude et les rumeurs. Puis la décision de fermeture est tombée comme un couperet. La plupart des infirmiers s'étaient préparés à prendre un poste ailleurs, mais certains de nuit se sont troussés sans destination. Quant aux aides-soignants, il ne leur est plus resté qu'à se trouver eux-mêmes des postes avec changement d'horaire non souhaité. Certains ont déprimé, sont tombés dans un état proche du désespoir, et je n'exagère pas, et le baratin de la cellule de mobilité ne les a pas du tout aidés à s'en sortir. Un autre fait a encore mieux révélé combien la direction se fiche des conditions dans lesquelles le personnel vit les restructurations. Après la fermeture du service de psychiatrie, un psychiatre continuait à faire des consultations pour des patients des urgences dans les locaux déserts de son ex-service. Il demandait à l'ex-assistante sociale de l'assister bénévolement. Un jour où il s'était éloigné, un patient a agressé la jeune femme. Le psychiatre, heureusement, n'était pas parti trop loin, mais qu'est-ce qui serait passé s'il était sorti du service fantôme? À la faveur des regroupements, les directions contraignent des agents à bouleverser leur vie par des changements d'horaire imposés. Les 12 heures se généralisent, les embauches ne se font plus qu'en grande équipe. On est du matin ou d'après-midi selon des roulements de plus en plus soumis au bon vouloir des chefs. Grâce à cette flexibilité généralisée, il est plus facile de déplacer quelqu'un d'un service à l'autre, dans un pôle, au gré du manque d'effectifs. Et bientôt, il sera possible de le faire à travers tout un groupe. Un chef de service de Beaujon justifiait son opposition au pôle en expliquant qu'il ne se sentait vraiment sûr de lui qu'avec les pathologies de son service, et qu'il se sentait peu capable de prendre les décisions pour les autres services du pôle. Il disait également que depuis qu'il y a la T2A, Son problème est qu'avant, il pouvait considérer l'état social d'un malade avant de le renvoyer chez lui. Et s'il avait affaire à quelqu'un au chômage, très pauvre, dans l'incapacité de se soigner par lui-même, il pouvait le garder dans un lit d'hospitalisation, au moins un temps, de façon que le malade soit mieux et puisse mieux affronter la vie. Aujourd'hui, un directeur vient le voir et lui dire « Ce traitement a duré tant de jours, c'est fini, le malade doit sortir. » C'est ça la différence maintenant, pour la plupart des médecins. Donc les scrupules de ce médecin sont étrangers aux directions qui rêvent de polyvalence généralisée. On ne nous parle plus de la conscience professionnelle au nom de quoi dans le passé les directions ont tant exigé de nous et tant infligé de sanctions. Cette notion reflète des états d'âme qui énervent les gestionnaires modernes. Aussi, ils l'ont remplacée par l'exigence d'efficience, terme chargé de préoccupations financières. Le directeur du groupe Paris-Nord-Val-de-Seine a expliqué à de nombreuses reprises que s'il fallait regrouper, c'était pour résister à la concurrence du privé. Il se pose en champion du service public. Mais au nom de cette défense à laquelle nous, le personnel, devrions nous associer, ce directeur a prévu de fermer Beaujon et Bichat d'ici une dizaine d'années. Vous pensez bien qu'une telle annonce a soulevé un petit tollé, un tollé beaucoup trop petit par rapport à ce qu'il aurait fallu, dans la population, dans le personnel et même chez les élus, le maire de Clichy. Devant ce petit tollé, la direction a décidé de mettre en avant l'idée de construire un nouvel hôpital qui remplacerait les deux hôpitaux Bichat et Beaujon. Mais avec combien de lits? Avec quel personnel? Pour traiter quelle pathologie? Pas de réponse. La seule réponse, c'est la direction y réfléchit. Eh bien, cette annonce d'un nouvel hôpital public qui remplacerait Bichat et Beaujon fait d'autant plus l'effet d'un miroir aux alouettes que des établissements privés sont en projet ou s'agrandissent dans les communes environnantes. Et d'ici 10 ans, ces établissements privés offriront peut-être une capacité suffisante pour que l'Agence régionale de santé décrète inutile la construction d'un hôpital public, puisque la carte sanitaire additionne indifféremment lits d'hospitalisation privés et publics. Les actionnaires de la Générale de Santé, de Corian et des autres groupes dont tu parlais tout à l'heure doivent déjà préparer leur stratégie à ce sujet. Oui, il risque de devenir encore plus difficile, voire impossible, de se soigner lorsque la plupart des prix ressembleront à ceux d'une clinique parisienne, 250 euros pour une IRM, plus 150 euros pour le médecin, plus 80 pour les produits. C'est un autre aspect de la guerre aux pauvres que mène la bourgeoisie qui est responsable de la crise. Et comme nous défendons l'idée d'un grand service bancaire unique, comme nous défendons l'enseignement public, il nous faut défendre en tout lieu l'idée du service public de santé, qui ne sera évidemment vraiment efficace et assuré que le jour où nous retirerons le gouvernail de la main des capitalistes.
Alors la parole maintenant à Gisèle Ghislaine-Joachim-Arnaud de CHU de Martinique.
Merci. La politique de santé du gouvernement s'applique sur tous ces territoires, y compris ceux de l'outre-mer, dits de l'outre-mer. Donc, tous les aspects qui seront décrits autour de cette table, nous les retrouverons aussi et également dans tous les établissements de santé aux Antilles, en Guyane et à La Réunion. Je ne reprendrai pas ces exemples. Je m'attarderai un peu sur la Martinique pour dire qu'en Martinique, contrairement à la Guadeloupe, il y a une prédominance d'établissements publics par rapport aux établissements privés. Il n'y a que 2 cliniques en Martinique. Il y a 13 centres hospitaliers et les 3 plus importants sont sur la région du centre, le CHU, le centre hospitalier du Lamantin qui a été construit en cité hospitalière, un nouvel établissement, et un sur la côte atlantique, le centre hospitalier Louis Domergue, appelé couramment centre hospitalier de Trinité. Ce qui différencie les hôpitaux des Antilles de ceux de France, c'est que nous accusons des retards importants qui ont été l'occasion de mouvements sociaux pour rattraper ces déficits en moyens matériels et en effectifs. Les dépenses sont plus conséquentes parce qu'il n'y a pas d'industrie du médicament en Martinique, parce qu'on ne produit pas des IRM en Martinique et qu'il faut acheter, enfin en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et en Réunion, et qu'il faut acheter tous ces produits à 7 000 ou 10 000 km. Donc ça coûte plus cher. Il y a les salaires qui coûtent plus cher aussi. Donc à un moment donné, les dirigeants des hôpitaux se sont battus et ont obtenu une compensation sous la forme d'un coefficient géographique qui est de l'ordre de 25%. Mais ça fait très longtemps que ce coefficient est resté identique et il a fallu faire grève fin 2005, une grève qui a concerné toute la communauté hospitalière puisque médecins, personnels non médicaux, politiques, y compris certains directeurs, avaient participé à ce mouvement. Il en était sorti des aides exceptionnelles pour les hôpitaux. Il en était sorti aussi qu'il fallait réétudier ce coefficient géographique de telle sorte que le ministère puisse confirmer sa revalorisation. Alors, les études ont été faites aux Antilles. L'ARH, à l'époque, a fait cette étude. Tout le monde a convenu qu'il fallait augmenter le coefficient géographique. Mais les ministres de la Santé qui se sont succédés nous ont dit, le premier, eh bien, il faut attendre que les autres aient terminé sur les autres départements d'outre-mer. Ensuite, sur la France, il y a des régions particulières comme la Corse, l'Alsace. Il faut faire une étude particulière. Ensuite, ils nous ont dit, mais on veut faire une étude un peu plus scientifique. Donc, on va mobiliser les services de l'INSEE pour faire cette étude. Les années se sont écoulées, 5 ans se sont écoulés sans que le coefficient géographique ait été augmenté. Et finalement, l'an dernier, on s'est mis en grève sur cela parce que ça commençait à bien faire. À côté de tout ce que le camarade a déjà expliqué, eh bien, il y avait des déficits qui se creusaient encore davantage. Et donc, on s'est battu. On a obtenu le principe par Madame Bachelot que le coefficient devrait être augmenté. Elle a voulu faire une étude supplémentaire. On lui a dit qu'on en a marre des études. Elle a dit, je vous garantis, dès que l'étude sera terminée, elle se fera selon une méthodologie décidée par le ministère. On va appliquer tout de suite. Et s'ils prennent trop de temps pour donner les résultats, ne vous inquiétez pas. Ce sera mis dans le budget en 2012 et il y aura une aide exceptionnelle en 2011. L'étude est terminée en mars 2011. Elle montre que le coefficient devait être de 30,4 au lieu de 25%. Il n'empêche qu'on est en juin et on n'a pas encore vu un centime de plus donné aux établissements hospitaliers. Alors, nous avons fait grève, aujourd'hui c'est quoi, samedi. Nous avons fait grève mercredi dans tous les hôpitaux en Martinique. La grève n'a pas été suivie majoritairement. On s'est retrouvé à être mobilisé devant chaque établissement. Ça touchait peut-être 600 à 700 personnes maximum. On s'est rassemblé à l'ARS. À l'ARS, nous avons été au grand maximum 300. Un sénateur est venu nous soutenir. Un seul médecin du CHU s'est déplacé. Une représentante des usagers s'est déplacée. Il n'empêche qu'on leur a dit... On vous donne un avertissement et le 19 juin, si les mesures ne tombent pas, considérez cela comme un préavis de grève de 24 heures reconductible à compter du 27 juin. Alors, maintenant, on s'était déjà mis en grève en 2009 lors de la grève de février-mars pour dans les hôpitaux, on réclamait déjà ça, on réclamait... la titularisation du personnel, on réclamait qu'on fidélise tous les contractuels, les travailleurs qui ont des contrats qui sont intermittents ou permanents. Et donc tout ça fait partie des revendications que nous avons et sur lesquelles nous invitons nos collègues à se battre. Alors, il faut noter que pour les budgets de l'année 2011, eh bien, les recettes ont diminué. Alors, on n'applique pas le coefficient avec le nouveau taux, les recettes ont diminué, mais en 2010, on a fait beaucoup d'efforts, on a mis à pied les intermittents, on a réduit sur le nombre de remplacements, les efforts ont fait que le déficit du plus grand centre hospitalier il était de 36 millions en 2009, fin 2009. En 2010, il est tombé à 21 millions. On nous a réduit de 13 millions nos recettes. Donc, on va retomber en 2011 avec un déficit aussi conséquent que celui de fin 2009. Et aujourd'hui, la pharmacie centrale du plus grand centre hospitalier, elle ne sait plus quoi faire. Parce que tous les fournisseurs sont endettés depuis un an et ils refusent de livrer des médicaments. Et on est revenu au troc, c'est-à-dire que le plus grand centre hospitalier universitaire appelle la Guyane pour savoir s'ils peuvent donner tant de médicaments. Appelle la Guadeloupe, appelle Henri Mondor et on fait du troc pour avoir des médicaments. Que pendant un mois, on est resté sans bétadine. Que les malades qui ont des scléroses par plaques n'ont pas de médicaments. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. D'accord? Et donc c'est révoltant et il est inadmissible que des personnes, un certain nombre de personnes qui réfléchissent, qui ont fait plein d'études, qui ont fait un certain nombre de choses, refusent de mouiller leur chemise et acceptent de travailler dans ces conditions. En tout cas, notre objectif, c'est bien sûr de reprendre le chemin de la lutte à partir du 27, en espérant que les travailleurs hospitaliers comprendront que si demain ils continuent à travailler sans médicaments, eh bien, s'il n'y a pas de médicaments, qu'est-ce que les malades viennent faire à l'hôpital? Et s'il n'y a pas de médicaments, il n'y aura pas d'aliments, il n'y aura pas de boissons, et on recommence à donner des ordonnances pour que les gens achètent leurs médicaments à l'extérieur. C'est ça la réalité. Et quand j'ai entendu ici même des camarades haïtiens parler des conditions dans lesquelles se trouvent les hôpitaux publics en Haïti, eh bien, je crois qu'effectivement, dans des pays riches et des pays moins riches, on peut se retrouver avec des services publics qui n'auront de public que le nom, et ce sera de la merde. Alors, l'ARS, les dirigeants de l'Agence régionale d'hospitalisation, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ils nous disent qu'en fusionnant les trois principaux établissements hospitaliers de la Martinique, on va supprimer les doublons, comme il manque certains médecins dans certaines pathologies, eh bien, ça permettra de mutualiser, de payer moins de garde, moins d'astreinte, etc. Bon, peut-être, mais ça ne va pas régler un certain nombre de problèmes auxquels on est confronté. Ils y croient, nous on y croit un peu moins. Nous on pense que le vrai problème c'est un problème politique, que le problème de la santé c'est un problème politique. Et que pour changer tout cela, c'est vrai qu'il faut changer le système économique dans lequel nous vivons. Et que, ben, ma foi, aujourd'hui, les travailleurs, ils ne semblent pas vouloir prendre cette direction. Mais des fois, ils peuvent nous surprendre et être prêts à faire le coup de colère. Et quand ce coup de colère viendra, ben, il faudra que nous, les militants révolutionnaires, nous soyons en capacité de rassembler les travailleurs et de leur donner des objectifs importants, des objectifs justes qui leur permettront de faire des pas en avant pour pouvoir transformer radicalement cela. En tout cas, en attendant, nous souhaitons que nos camarades et nous continuerons à militer pour qu'un plus grand nombre de travailleurs s'impliquent dans ce combat-là, parce que nous ne voyons pas comment nous en sortir si nous ne changeons pas le rapport de force au sein des travailleurs hospitaliers et si nous n'arrivons pas non plus à entraîner, à mobiliser les autres couches de la population, parce que la maladie ne prévient pas et c'est pas quand on est malade qu'on a la force de réagir, c'est avant qu'il faut trouver la force de réagir et donc avant qu'il faut arriver à intéresser les autres travailleurs de d'autres corporations pour qu'ils voient que c'est aussi leurs intérêts que l'hôpital public puisse demeurer, être pérennisé et avoir les moyens de fonctionner correctement. Enfin, en tout cas, voilà ce que j'avais envie de vous dire.
Alors, la parole maintenant à Nathalie Malol de CHU Marseille.
Bonjour, 2009, le ministre de la Santé, Bachelot, faisait aux hôpitaux publics le manque de 9 millions d'euros. Elle offrait sur un plateau d'argent 54 millions d'euros au futur hôpital privé d'Esbief Ambroise Paré. Alors c'est à l'occasion du plan Hôpital 2012, ces plans qui fixent les sommes distribuées par l'État aux hôpitaux sur 5 ans. Et c'est bien un véritable symbole réaffirmant les choix du gouvernement en matière de santé, tout pour le privé. Ce nouvel hôpital, fruit de la fusion de deux hôpitaux privés, se voit de plus offrir un bonus de 100 lits supplémentaires puisqu'il passera de 390 lits à 500 lits. Les travaux, commencés il y a plus d'un an, ont transformé tout le quartier de la Joliette à Marseille en un immense chantier. Une rue a été supprimée, totalement avalée par le projet, et circuler dans ce quartier déjà saturé est devenu un véritable enfer. Un grand complexe immobilier de plusieurs immeubles, Néomed, dont le chantier est patronné par la société Bouygues, est en construction juste en face de cet hôpital. Dans deux immeubles de 16 et 9 étages, il abritera une crèche privée, un centre médical privé haut de gamme sur 3 niveaux, une résidence privée de 109 logements destinés à loger les étudiants et familles de malades et aussi une école d'infirmières privée. Autant dire que tout est fait pour trier la clientèle sur le volet ou pour l'endetter pour des années. Depuis 2009, la loi Hôpital Santé Territoire dont parlait notre camarade tout à l'heure semble également avoir été taillée sur mesure pour Renaud Muselier, élu UMP, et François-Michel Giocanti, beau-frère de la ministre Christine Lagarde. Tous deux sont patrons associés d'une clinique de rééducation privée haut de gamme, la clinique Saint-Martin, qui compte 153 lits. Le député premier adjoint au maire Muselier, fort de son siège de vice-président de conseil d'administration des hôpitaux de Marseille, de l'assistance publique, s'est ainsi fait voter pour un prix dérisoire la vente d'un terrain de près de 7000 m² à l'intérieur du site de l'hôpital public de Sainte-Marguerite. En 2013, s'ouvrira sur ce terrain une extension de la clinique Saint-Martin de 90 lits, avec profit sonnant et trébuchant garanti au sein même de l'hôpital public. D'autres patrons du privé sont aussi de la fête, ceux des cliniques privées Valmante et La Phocéenne, qui ont de la même façon acquis du terrain à l'intérieur de l'hôpital Sainte-Marguerite. Ce seront ainsi plus de 200 lits privés qui recevront directement les patients sortant des services de rhumatologie et de chirurgie orthopédique de l'hôpital Sainte-Marguerite. Alors, la dégradation des hôpitaux, c'est aussi beaucoup, c'est une forte charge et c'est un gros problème pour les populations pauvres. Et l'assistance publique de Marseille, qui est le troisième CHU de France, en fait aussi les frais. En plus de l'hôpital Sainte-Marguerite, donc l'assistance publique compte trois autres hôpitaux, deux au centre-ville, la Timone et la Conception, dont moi je travaille à la Conception, et l'hôpital Nord. Elle regroupe à peu près 3500 lits et 12 000 agents y travaillent. À titre de comparaison, l'ensemble des plus grands hôpitaux généraux privés de Marseille totalise 2100 lits, en comptant le nouvel hôpital dont je vous ai parlé, d'Esbief, ce qui fait une très importante proportion de privés déjà sur Marseille. Pourtant, cela n'est pas vraiment de trop, car en plus de la population du Grand Marseille qui compte plus de 1 million d'habitants, la PHM notamment reçoit aussi des malades de tout le département et au-delà, et beaucoup de l'étranger aussi. Alors, on parlait tout à l'heure des regroupements. Moi, je vais vous donner un exemple de regroupement, c'est celui des urgences. Donc, les urgences de l'hôpital Sainte-Marguerite, qui recevaient tous les patients du sud de Marseille, ont été fermées en juin 2010, donc l'année dernière, et déroutées vers l'hôpital de la Conception. Avec l'arrivée massive de tous ces malades, l'accueil des urgences s'est brutalement dégradé, les malades affluaient, les brancards encombraient les couloirs. Des patients souffrant et leurs familles inquiètes devaient attendre jusqu'à 4 ou 5 heures avant d'être pris en charge. La plupart des services de médecine de l'hôpital ont été submergés par cet afflux, devant parfois annuler des hospitalisations prévues pour des traitements ou des opérations pour faire de la place aux urgences. Le personnel, complètement dépassé, se retrouvait en première ligne pour gérer des situations très difficiles. En février dernier, un jeune patient hospitalisé pour des bouffées délirantes a attaqué avec son pied à perfusion une vieille dame. Et il s'est ensuite jeté dans le vide par la fenêtre d'une chambre, croyant pouvoir, dans son délire, prendre son envol. Tous deux sont décédés peu de temps après. Dans les jours qui ont suivi, les personnels des urgences qui s'étaient réunis très nombreux exprimaient leur colère, disant que cela faisait des mois qu'ils tiraient la sonnette d'alarme sur la situation depuis la réorganisation. Ils dénonçaient le manque de personnel, de matériel d'urgence, la panique ambiante. Beaucoup disaient que ce drame n'était pas une fatalité et disaient aussi leur refus de continuer à recevoir les malades dans ces conditions inhumaines. La direction de l'assistance publique a répondu en soulageant les urgences de la conception de 3 arrondissements qui ont été détournés vers l'hôpital Nord. Mais la seule solution, comme l'ont dit les agents des urgences, c'était bien de rétablir le service des urgences à Sainte-Marguerite, car la situation est toujours difficile, les brancards occupés par des malades continuent d'encombrer les locaux et les urgences de l'hôpital Nord sont elles aussi en difficulté. Des habitants des quartiers sud de Marseille ont créé, avec des syndicalistes de l'hôpital Sainte-Marguerite, un collectif contre la privatisation de Sainte-Marguerite et les départs des services. Ils sont d'autant plus en colère qu'une maison médicale qui devait pallier le départ des urgences et des services devait se mettre en place très rapidement, mais n'a toujours pas été ouverte. Alors sur les suppressions de personnel dont on parlait, pour l'année 2012, la direction de l'assistance publique l'a déjà annoncé, il faudra trouver au moins 80 postes à supprimer. Et tous les ans, c'est comme ça. Tous les moyens sont bons, comme la généralisation de la journée de 12 heures, qui permet de tourner avec 2 équipes par jour au lieu de 3. Avec ces horaires, ce sont les 2 dernières heures qui sont les plus dures, et beaucoup d'infirmières disent se contrôler mutuellement dans leur travail par peur d'une erreur due à la fatigue. Il y a les horaires décalés qui permettent de faire se chevaucher les agents au moment des pics d'activité. C'est du n'importe quoi pour la vie des agents. Il y a aussi les départs aux non remplacés qui entraînent des tâches supplémentaires auxquelles les agents ont de plus en plus de mal à faire face. Et puis, il y a aussi le recours à la sous-traitance. Et on ne peut pas ne pas parler de ces personnels qui contribuent aussi à faire tourner les hôpitaux. Les équipes de sécurité, les agents de nettoyage, corvéables, payés au lance-pierre, ils travaillent avec des chefs souvent accrochés à leur basque pour pousser la cadence ou à la recherche d'une faute. Les avertissements, les coups tordus, les entretiens pour licenciement, ces chefs et surtout leurs patrons ne reculent devant rien pour augmenter la rentabilité. Et les directions des hôpitaux, patrons suprêmes, sont prêts à fermer les yeux sur tous les sales coups, pourvu qu'il n'ait pas à payer trop cher. Cela n'a d'ailleurs pas empêché à plusieurs reprises des mouvements de grève extrêmement suivis de ces personnels pour des retards de salaire, des primes non versées ou tout simplement, comme ils ont pu l'écrire sur des pancartes, pour le respect. Il y a aussi les économies de matériel et de produits pharmaceutiques. Alors un exemple, il nous arrive maintenant de voir en service d'hospitalisation des médecins faire des ordonnances qu'ils donnent aux familles, ce que tu disais tout à l'heure, pour qu'elles aillent elles-mêmes acheter des médicaments en pharmacie de ville. Bien sûr, s'ils ne sont pas pris à charge à 100%, ces patients doivent payer le complément si le médicament n'est pas remboursé intégralement. C'est une charge supplémentaire pour des familles qui ont le plus souvent des revenus modestes. D'après un rapport de l'assistance publique, ces 5 dernières années, les dépenses en pharmacie ont augmenté de 33%. C'est l'augmentation des médicaments, c'est aussi l'appauvrissement de la population et les pathologies de plus en plus lourdes. C'est ainsi que les hôpitaux publics ou les mutuelles des patients payent toujours plus pour les actionnaires de l'industrie pharmaceutique. Et autre exemple, donc, c'est l'économie en service de réanimation. Donc il a été décidé dernièrement qu'il était désormais inutile que les familles et les personnels mettent des surchausses, des surblouses stériles pour entrer dans les chambres. Du jour au lendemain, on leur assurait que les précautions qu'on leur demandait de prendre depuis de nombreuses années n'étaient plus nécessaires. Mais pour le personnel, ça passe mal, d'autant que le chef de service aurait dit que ce matériel coûtait trop cher, plusieurs milliers d'euros par an. De même, ce pôle qui englobe aussi le service des grands brûlés a décidé, service de pointe, de se passer de certains produits utiles à la cicatrisation. Cela aussi passe mal auprès du personnel soignant qui dit voir augmenter le nombre d'escarres, de patients souffrant d'escarres. Alors bien sûr, les malades et leurs familles paient le prix fort de cette politique et les premières victimes sont les plus modestes. Les services de consultation spécialisés saturés sont un exemple. S'il faut une consultation urgente, pas d'autre solution, si on peut le faire évidemment, que de payer une consultation qui peut varier de 65 à 120 euros, même 150. Les hôpitaux publics sont les seuls aussi à recevoir tous les malades qui s'y présentent. Ils assurent pour les cas les plus difficiles et récupèrent les malades dont ne veulent pas se charger les hôpitaux privés. Et ils sont nombreux, porteurs de plusieurs maladies coûteuses, peu rémunératrices, personnes âgées, bénéficiaires de la CMU, patients sans couverture sociale, SDF. Aux urgences, il arrive par exemple de voir des pompiers amener des patients en disant qu'ils ont été refusés par les urgences d'un grand hôpital privé situé un quartier plus loin, l'hôpital Saint-Joseph. Alors, 22% des patients reçus à l'assistante publique de Marseille sont des RMistes, enfin on dit maintenant le RSA, C'est le double de la moyenne nationale. Les assistantes sociales ou tout simplement le personnel, toi tu le disais, c'est vrai que les hôpitaux en marchent encore, mais en grande partie parce que le personnel le veut, le décide, essaye de trouver des solutions pour ses patients. Mais la crise et la précarité gagnent du terrain et c'est de plus en plus difficile. On entend maintenant dans la bouche des directeurs et des cadres les mots rentabilité, taux de remplissage des lits, coût par patient. Les services de recouvrement des impayés deviennent des services importants dont les statistiques sont suivies à la loupe. Alors, toutes ces choses que l'on entend et qu'on voit dans les hôpitaux n'auraient pas été imaginables, ça va très vite, il y a seulement quelques années. Mais les agents parlent, les patients parlent avec les agents, ils acceptent pas. Et moi, et pour nous, c'est dans nos discussions, c'est aussi ce qu'on dit souvent parce que c'est vraiment important. Et ben, il nous reste surtout à ne pas s'habituer à cette situation. Voilà.
La parole à Marie-Christine Pernin de Lyon, CHU.
Si. Je vais vous faire une version un peu courte. Donc les hôpitaux lyonnais, ça fait très longtemps qu'ils ont commencé à se réorganiser. On a perdu 1 millier de lits. Et actuellement, on avait en 2008 une dette qui s'élevait à 750 millions d'euros. Ce qui était énorme parce que l'État n'avait pas donné la possibilité d'aider financièrement les hôpitaux à se moderniser. Et dès 2008, donc, le gouvernement de Sarkozy, comme il l'a demandé à tous les CHU, avait demandé le retour à l'équilibre financier. Ce qui fait que depuis 2008, on supprime 200 postes par an, ce qui représente chaque année, à peu près, dans chaque hôpital, 2% des postes. Alors, dans le même temps, les cliniques privées, elles ont pu se moderniser avec l'aide de l'État. Et elles se sont modernisées à hauteur de... elles se sont regroupées et l'État les a aidées avec des investissements, à financer leurs investissements jusqu'à 50%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'agglomération lyonnaise, on a des grands établissements privés qui ont au moins 200 lits chacune, même 300 lits, et certaines qui s'appellent hôpital, maintenant s'appellent hôpital privé plutôt que clinique. Ces groupes, ils appartiennent soit au groupe mutualiste, mais aussi ils appartiennent à la Générale de Santé, qui est cotée en bourse, à Sapio, qui sont des fonds américains et des fonds européens, et puis Noalis, qui sont des fonds des banques. Et petit à petit, ils grignotent le service public. Ce qui ne les empêche pas partout donc de pratiquer des dépassements d'honoraires chaque fois qu'ils le peuvent dans toutes leurs consultations et leurs interventions. Ce qui fait que pour beaucoup, on constate que pour tous ceux qui ne peuvent pas payer ces dépassements, on constate un appauvrissement de la population des patients qui vient à l'hôpital public, hein, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer ces dépassements. Alors, il n'y en a pas que ceux-là hein, qui viennent à l'hôpital public, mais quand même, ils doivent, ces gens-là, eh ben, accepter les délais qui sont plus longs et accepter le manque de personnel et le manque de place. Alors, elles, les cliniques privées, même si elles font payer très cher leurs services, par contre, elles ne sont pas généreuses du tout avec les malades. On a pu le remarquer lors de l'inauguration d'un des groupes d'une clinique, là, Noalis, où les personnels ont manifesté en criant « il y a de l'argent pour le champagne, mais il n'y en a pas pour les gants de toilette ». Ou un autre groupe où les gens ont manifesté de cette clinique en disant « le manque de tête d'oreiller », dénonçant le manque de tête d'oreiller, le manque de gants de toilette et le manque d'anesthésion pour les enfants. Alors, les effectifs dans les cliniques privées, ils sont calculés là aussi au plus juste. Et il y a une infirmière intérimaire qui était venue à l'hôpital et qui disait qu'elle s'était retrouvée avec 25 patients toute seule à s'occuper, ce qu'on ne verra jamais dans le public. De la même manière, il y a une seule instrumentiste dans le privé pour plusieurs blocs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui quand même à l'hôpital public. Il y a aussi un développement de l'hospitalisation de jour et certaines cliniques, pour elles, c'est vachement rentable et du coup, elles essayent de faire plusieurs interventions dans la journée et elles arrivent à faire trois interventions dans les lits sont utilisés trois fois dans la même journée. Et du coup, c'est du travail à la chaîne et pour les infirmières qui n'ont pas beaucoup d'expérience, eh bien, elles font des prises de tension toute la journée et du coup, quand elles arrivent en fin de journée, elles ne savent même plus les patients qu'elles ont vus. Hein, donc, nous, à Lyon, donc, on a trois hôpitaux privés maintenant qui ont des missions de service public et qui sont dans un endroit où il n'y a plus qu'un hôpital public. Et là, donc, du coup, on voit disparaître toute l'activité qui part vers le privé. Et on a de moins en moins, nos urgences sont de plus en plus vides. Par contre, les personnes qu'on accueille, eh bien, c'est les personnes qui ne sont pas voulues par les cliniques, par exemple comme les personnes âgées, parce qu'elles sont difficiles à placer et que la sécurité sociale, après, ne paye pas les prolongations d'hospitalisation. Ou alors des gens qui arrivent dans le privé parce qu'ils ont été transportés dans le privé et qui ne peuvent pas payer les dépassements d'honoraires et qui, du coup, sont transférés à l'hôpital public. Voilà, donc c'est un petit peu la situation. Tout est fait pour favoriser le privé. Ah, aujourd'hui, ils ont mis en place aussi de ce qu'on appelle des groupements d'intérêts économiques, c'est-à-dire ils obligent le public à partager toutes les installations avec le privé. Donc, par exemple, pour vous donner juste un exemple, les lasers ultramodernes, une intervention publique à l'hôpital, c'est 650 euros à 1200 euros. Dans le privé, dans le même hôpital, avec les mêmes installations, c'est multiplié par deux. Et la clinique va reverser 20% à l'hôpital, ce qui fait qu'elle aura fait un gros bénéfice au bout du compte. Bon, c'est pareil pour les IRM, c'est pareil, voilà. Donc, d'une manière générale, quand même, les cliniques se portent bien, puisque la Fédération hospitalière de France a annoncé qu'ils allaient faire, normalement, leur chiffre d'affaires allait progresser de 2,3% contre 1,5% pour le public. Alors, à côté de ça, donc d'une manière générale, pour le personnel des hôpitaux, des hospices civils de Lyon, les conditions de travail se sont beaucoup dégradées. Et aussi, on nous a repris petit à petit tous nos acquis. C'est le cas de la prime versée au personnel travaillant la nuit, qui, comme elle était non statutaire, elle a été supprimée sur injonction de la Cour des comptes. Et c'est moins 150 euros par mois, jusqu'à 350 euros par mois, suivant l'indice où les gens se trouvaient, que les gens ont perdu. Donc les hospitaliers travaillant la nuit ne touchent plus que 9 euros pour travailler, et bien plus avant. Donc cela a entraîné des départs d'infirmières, de nuit vers le privé, et où les nuits sont beaucoup mieux payées. De même, les conditions de travail très difficiles, suppression de postes, font qu'aujourd'hui, les infirmières ne restent pas et s'en vont. En plus, diminuer les coûts à l'hôpital, on est passé de pratiquement une infirmière pour 10 à 12 patients aujourd'hui contre la moitié, le double avant. Ce qui fait que donc, les infirmières partent et donc notre établissement a créé un clip que peut-être certains d'entre vous ont vu à la télévision pour essayer d'attirer les infirmières dans notre centre hospitalier. Alors il paraît qu'il y a déjà 10 personnes qui sont venues se présenter. C'est des infirmières du personnel essentiellement administratif et des cadres qui dansent et qui montrent « rentrez dans l'ambiance, venez, on est heureux à l'hôpital, tout se passe bien ». Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est pas trop le cas. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que de plus en plus, donc depuis une vingtaine d'années, on est en train de tuer l'hôpital public.
On peut conclure les interventions Claire Rocher du CHU de Dijon.
Alors, si vous avez une maladie qui concerne la chirurgie digestive ou thoracique, la médecine interne ou la néphrologie, ou pire encore, la chirurgie maxillofaciale, je vous conseille de ne pas venir vous faire soigner actuellement au CHU de Dijon. Et je n'incrimine ni les médecins ni le personnel soignant dont je fais partie. Mais il règne actuellement au CHU une pagaille qui dépasse largement la pagaille due à un déménagement. En effet, le CHU de Dijon vient de faire reconstruire complètement un nouvel hôpital et toutes les structures qui vont avec. Et la taille du chantier a tellement aiguisé les appétits des uns et des autres que l'hôpital tout entier, ses infrastructures, les anciennes comme les nouvelles, son personnel médical ou pas, sont devenus la proie d'une nuée de sociétés qui décident de tout sans même les consulter ou si peu. En fait, tout le quartier de l'hôpital du Bocage a été réorganisé. À la place d'un ancien hôpital militaire, on a construit un plateau technique de biologie, une stérilisation centrale, des cuisines centrales, et sur le site de l'hôpital déjà existant, un gigantesque nouveau bâtiment de 4 étages au-dessus du sol, plus 2 en dessous, appelé Bocage Central. Alors il y a une rue qui traverse le site et où on fait passer les bus, et il y a même une rue intérieure dans l'enceinte du CHU entre les deux ailes du nouveau bâtiment qui permet le passage des ambulances et des taxis, mais qui servira aussi au tramway dont les travaux sont en cours actuellement. Alors la construction en elle-même a coûté 280 millions d'euros. Une multitude d'entreprises privées se sont abattues sur le chantier comme une nuée de sauterelles, au point d'en faire le plus grand chantier hospitalier de France. Alors parmi ces entreprises, évidemment, il y a eu l'incontournable Bouygues, FH pour les grues, il y a eu jusqu'à 7 grues en même temps qui tournaient en permanence, mais aussi des plus improbables comme General Electric qui est venu pour certains matériaux médicaux, Ineos Suez qui nous a installé des nouveaux téléviseurs écran plat, Philips qui nous a mis en place un logiciel pour avoir les radiologies sur l'intranet, Demeco pour le déménagement, mais aussi des illustres inconnus qui se sont dits spécialistes des déménagements hospitaliers. Des entreprises plus locales comme DID Production pour le blindage des blocs ou des salles de radio, des entreprises comme Pacotte et Mignotte pour tout ce qui est fenêtres alu, ou moins locales comme des plombiers polonais, et même Technologia, un spécialiste des audits sur la souffrance psychologique au travail, qui a d'ailleurs fait le même boulot pour la NPE il y a quelque temps. Et donc en fait, chacun a inventé quelque chose à vendre. On a fait des systèmes pour motoriser les lits, pour économiser des brancardiers. On a fait des robots pour transporter les prélèvements, des systèmes pneumatiques pour envoyer les tubes d'un bâtiment à l'autre. L'approvisionnement des services en matériel de soins stériles ou à usage unique et en pharmacie a été informatisé avec un système de code-barre qui a nécessité tout un nouveau logiciel qu'on nous a vendu aussi. Aux urgences, ils ont installé un logiciel spécial de prescription pour les services qui vont accueillir leurs patients, mais leur logiciel ne communique pas avec les nôtres. Et en fait, à chaque fois, c'est une autre entreprise et un autre marché. Pour vous dire, le CHU s'est endetté auprès des banques pour 80 ans. Et cette année, les seuls intérêts des emprunts ont coûté 9 millions d'euros. C'est 46% de plus que l'an dernier, ce qui donne à l'administration l'occasion de faire pression en permanence pour soigner de façon rentable et faire du chiffre comme l'ont décrit les autres camarades. Et le deuxième résultat, c'est que rien ne fonctionne vraiment. La moitié de la modernisation est inutile, car elle remplace une procédure ou une utilisation de matériel qui marchait bien, par des nouvelles procédures et un matériel nouveau, plus sophistiqué, sophistication inutile forcée par toutes ces entreprises qui veulent ainsi justifier les ventes. Ce qui fait qu'un système hospitalier qui marchait globalement bien est complètement désorganisé et même détruit par cette vente forcée. Alors quelques exemples, commençons par le commencement. L'hélico du SAMU, la première fois qu'il a atterri sur l'héliport sur le toit du nouvel hôpital, a brisé toutes les vitres du quatrième étage. Et donc aujourd'hui, il est obligé de ne pas se poser et de rester en vol stationnaire à 20 cm du sol. Et donc, comme on dit dans notre bulletin, attention à la marche. Le nouveau magasin général flambant neuf a été équipé d'un quai de déchargement où la rampe d'accès était trop pentue et a dû être cassée et refaite parce qu'elle ne permettait pas aux camions de décharger le matériel. Au plateau technique de biologie, les laboratoires, les prises pour les appareils d'analyse étaient placées au sol en dessous des paillasses et donc il a fallu tout démolir et refaire des paillasses neuves avec des prises au-dessus pour brancher les appareils qu'on pose dessus. Moins spectaculaire mais tout aussi inefficace, il y a eu un nouveau système de transport automatique des tubes de prélèvement avec des tortues, c'est des nouveaux robots qui passaient tout seuls dans les services, un peu comme les aspirateurs qui se déplacent tout seuls, et dans lesquels on plaçait les tubes, et en fait ça s'est révélé mal conçu, c'est-à-dire que les grands flacons pour la bactériologie tombaient sur les autres et les cassaient. Et puis les tubes pour les examens sur la coagulation en fait étaient trop secoués par les appareils et ça faussait les résultats de laboratoire, ce qui était quand même embêtant. Donc on a abandonné les tortues, qu'on a quand même achetées, hein, ça c'est payé. Le nouveau système de pneumatique pour envoyer des tubes particulièrement urgents, qui étaient destinés avant tout aux réanimations, a été judicieusement placé dans l'aile nord du bâtiment, alors que les réas sont dans l'aile sud, ce qui fait qu'à chaque fois, quelqu'un est obligé de sortir du service et de traverser la passerelle vitrée qui relie les deux ailes pour courir, mettre le tube dans le pneumatique. Les couloirs des services sont tellement étroits qu'à chaque fois qu'on veut passer un lit, il faut rentrer tous les chariots dans les chambres, si on y arrive, parce que certaines chambres sont tellement petites qu'on ne peut plus y faire rentrer même le chariot d'urgence s'il faut réanimer quelqu'un. L'hôpital a aussi acheté des sortes de tire-palettes à moteur qui se placent au bout du lit du patient et qui permettent au brancardier à l'autre bout du lit de faire seul des transports où il fallait être deux. Mais une fois le tire-pal au bout du lit, les lits ne rentrent pas dans certains ascenseurs. Et les brancardiers, par contre, font maintenant jusqu'à 25 km par jour à pied, tellement l'hôpital est étendu. Alors on a informatisé aussi les dossiers de soins et tous nos logiciels de travail ont été changés, ce qui a augmenté encore la pagaille le temps qu'on s'y habitue, mais même au-delà, parce que certains sont moins bien que les anciens, au point que par exemple le logiciel de demande d'analyse de labo, hors de rite, est connu dans tout l'hôpital comme hors du rite. Et le pire, c'est quand même qu'ils ont oublié un service, la chirurgie maxillofaciale, qui n'avait plus de service pour déménager, pour emménager, qui est obligé du coup d'être hébergé par plusieurs services différents, ils ont quelques patients dans chaque. Quant aux urgences, de la taille d'un terrain de foot, le nombre de box où les patients sont accueillis a presque doublé à personnel constant. Mais surtout, on a multiplié en fait les salles d'attente. Donc il y a une attente radio, une attente scanner, une attente brancard pour les patients qui doivent être hospitalisés et qui attendent une place dans un service de soins, etc. Et des écrans géants ont même été installés pour permettre au personnel soignant de voir de loin la liste et le nombre de patients qui apparaissent en rouge si ça fait plus de 12 heures qu'ils attendent, en orange si ça fait entre 8 et 12 heures, et en vert sinon, parce qu'en dessous de 8 heures, tout va bien. Il y a 15 jours, une cadre supérieure se vantait dans une réunion qu'il n'y avait eu que 17 heures d'attente pendant le week-end aux urgences. Autant dire que la liste sur les écrans géants est souvent à dominante rouge. Alors l'impression générale, outre de servir de vache à lait au privé, c'est d'une désorganisation qui s'amplifie de jour en jour. Alors pour l'instant, on essaye de s'adapter, mais il y a eu pas mal de démissions, comme l'ont signalé les camarades. Nous, on a 35% des infirmières de la dernière promotion, donc arrivée en novembre, qui ont déjà démissionné. Voilà. Donc, tout le monde a été débordé par ces changements et par cette nuée de sauterelles, une fois qu'ils se sont précipités pour dévorer le gâteau, y compris l'administration. Et dans tous ces chantiers et modernisations, il n'y a pas eu d'intérêt réel pour la santé publique, ou si peu. Et ce sont donc en réalité de véritables subventions directes aux entreprises capitalistes.
Bon, maintenant, s'il y a des participants qui veulent poser des questions ou faire des interventions, essayez d'être assez bref parce qu'il ne nous reste plus que 20 minutes avant le prochain débat. Bon, il y a toi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes
Oui, disons qu'il y avait deux sujets qui étaient forcément, comme les participants font partie des CHU, ça n'a pas été abordé, mais c'est la désorganisation des soins aux personnes âgées qui vont s'amplifier, que souvent les hôpitaux, surtout les petits hôpitaux de province, sont transformés en maisons de retraite. Les soins à domicile, à certains endroits c'est bien assuré, d'autres on se demande. Et après, c'est un autre sujet, c'est la désorganisation un peu, surtout le samedi et le dimanche, de la médecine libérale qui en fait désorganise en particulier les urgences des services publics.
Il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir, poser une question? Pardon, excuse-moi, je n'ai pas vu.
Non, c'est-à-dire que comme c'est des paroles de catastrophe, quoi, je voudrais rajouter quelque chose. Quoi. Et donc, pour dire simplement que nous, quand on parle de séisme en Guadeloupe, on monte systématiquement le CHU de Pointe-à-Pitre. Et donc, il y a une étude qui a été faite par les mines, je crois, où on dit que si il y a un tremblement de terre en Guadeloupe, étant donné que le CHU est placé à même pas 10 km d'une faille de gosier, le CHU risque de tenir des problèmes qui vont s'écrouler. Et donc, Mme Bachelot, venue, je crois, il y a quelques années, en 2009, je crois, en Guadeloupe, elle a dit, on avait manifesté pour le nouvel hôpital, et elle a dit, bon, mais écoutez, vous aurez un hôpital, et ça sera très vite, et vous aurez des embauches, etc. Jusqu'à maintenant, rien n'est fait, il y a un terrain qui a été acheté, mais jusqu'à maintenant, personne ne veut payer. Le gouvernement, disons l'ARS plutôt, diminue chaque année le nombre de lits. On est passé de 900 lits maintenant à pratiquement 490. Et donc, toujours pas de nouvel établissement. Voilà.
Bon, il y a quelqu'un d'autre Personne ?
En effet, hein, je suis d'accord, et tout simplement comme tu l'as dit, parce qu'effectivement nous travaillons dans des grosses structures, mais c'est vrai que dans l'exposé du copain, tu l'avais entendu, c'est en général la santé qui est attaquée, c'est en général... Ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, on essaie les militants de faire comprendre à nos collègues que quand ils croient qu'un bon argument c'est de dire comment vous allez faire pour soigner, si vous faites ça vous n'y arriverez pas, mais ils s'en foutent. Et ça, j'ai le plus grand mal à faire comprendre ça à mes collègues. En fait, ça c'est des arguments qu'on peut opposer pour la propagande, montrer à la population, justement aux gens, qu'ils en ont rien à fiche que ça marche. mais eux, ils s'en fichent, ils veulent faire des économies. Et donc, organiser la santé au niveau des médecins de ville, c'est pas leur problème. On l'a vu au moment de la vaccination, là. Hein, combien de médecins de ville ont dit que si la médecine de ville était bien faite, si, etc., il n'y aurait pas eu besoin de mettre en place le grand bazar qu'on a vu et qui était assez inefficace d'ailleurs. Bon, mais elle n'est pas bien faite. Elle n'est en tout cas pas faite avec des études où on forme des médecins préoccupés de l'intérêt de la population avant leur propre intérêt. Je ne dis pas qu'on travaille nous-mêmes, on travaille pour toucher un salaire, pour gagner un revenu. Mais les médecins ne sont pas différents à ce point de nous, pour qu'il n'y en ait pas une partie qui serait prête dans un autre système, autrement pensé, avec une autre habitude de penser et tout, à travailler le dimanche, la nuit, quand il faut, être sans arrêt au service de la population. Il y a des corporations qui le font, il y a des professionnels, d'ailleurs c'est ce que nous, dans les hôpitaux, nous faisons. Nos collègues, ils travaillent de nuit, nous avons, pour certains, tous travaillé de nuit. On pourrait inventer ça. Pour la gériatrie, c'est encore bien pire. Alors la gériatrie, ils s'en servent aujourd'hui comme un grand thème de propagande. Ben, ils ne peuvent pas cacher qu'il y a de plus en plus de personnes âgées dans la population. Mais dès qu'on fait une enquête un peu précise sur la condition des personnes âgées dans des centres qui d'ailleurs sont juste à côté des hôpitaux, moi ça m'est arrivé, on constate des aberrations, des plus parfois d'ailleurs. Parfois, il y a des reportages à la télé qui sont exagérés, qui cherchent le sensationnel, mais les cas de maltraitance, les cas d'isolement de personnes dans des structures où il n'y a vraiment personne pour s'occuper d'elles, ben, d'ailleurs, je pense que plus ça va, plus nous avons autour de nous et dans nos familles ou parmi nos amis, des gens, on se dit, je ne veux pas finir ma vie comme ça parce que c'est terrible. Je rentre justement, comme tant d'autres, de voir une personne comme ça et je me dis, la pire des choses. Alors, ce qui est pire que tout en plus, c'est que les gens de ce genre, l'État fait toute une propagande dessus en nous disant « faut être raisonnable parce que la population vieillit ». Et en fait, qui s'occupe d'eux quand on s'occupe d'eux? C'est leur famille. C'est les gens qui vont les voir. C'est leurs amis quand ils peuvent. C'est quand il y a quelqu'un. Moi, je connais c'est la personne dont je vous parle, elle est dans un EHPAD. Heureusement, il y a ses amis et la rue d'à côté. Mais s'ils n'étaient pas là. Et ça, c'est pas les préoccupations de l'État, c'est les nôtres. Et ça rejoint les conclusions qu'on avait entendues tout à l'heure. C'est pas seulement, en effet, les hôpitaux. Hein. D'ailleurs, le copain avait parlé des hôpitaux en dernière partie, enfin, pas en première partie, justement, pour dire, bien sûr, il y a aussi les hôpitaux, mais il y a tout le reste. Et la santé, c'est un thème global, c'est une réalité générale, et c'est là qu'il faudrait réfléchir, organiser ça au mieux pour la population et absolument dans aucun domaine laisser ça aux mains des entreprises privées soumises à la loi du maximum de profit pour les actionnaires. Mais tu as eu bien raison de le signaler, c'est ça que je voulais dire.
Il y a quelqu'un d'autre qui veut rebondir et intervenir, poser une question? Non? Oui? Non, il y a quelqu'un? Pardon, excuse-moi. Tu peux venir ici?
D'abord, moi je suis surpris de la qualité des interventions. Je trouve ce que mon ami Georges a dit, on pourrait quasiment l'éditer en tract à Clichy, sauf un ou deux passages, mais bon, ceci dit. Moi, je suis Jean-Pierre Prénaud, je suis retraité de la métallurgie et je fais partie du petit collectif qui dirige l'Union locale de Clichy. Et puis, depuis toujours, je suis un militant du PCF. Et je le suis toujours. Ceci dit, en dehors des interventions que je partage entièrement, moi je crois que la propagande du gouvernement, elle veut montrer une volonté d'économie, etc. Mais ils ont caché habilement un des derniers rapports de l'OCDE. Celui-là, ils le cachent. Parce que l'OCDE, qu'est-ce qu'elle déclare? Elle déclare aux futurs actionnaires qu'il y a deux possibilités d'avoir des marges supérieures à 10% dans les investissements. C'est l'éducation, et on voit bien le sort de l'école aujourd'hui, et la santé. Et j'en rajoute pas parce que les camarades ont tout dit. Enfin, presque.
autre qui veut intervenir, dire quelque chose? Non, Jean-Jacques Lamy.
Simplement de façon assez brève, donc, comme on l'a vu, et un peu pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire, puisqu'il parle des écoles, on a nous parlé beaucoup des hôpitaux, mais finalement, il y a des suppressions de postes, je l'ai dit, dans les hôpitaux, il y en a dans les écoles, il y en a dans toute la fonction publique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la même politique qui est derrière, et que c'est ça qu'il faut qu'on fasse comprendre, c'est ça qu'il faut qu'on explique. C'est-à-dire que, évidemment, les gens dans la période actuelle se défendent là où ils sont, avec les moyens qui sont les leurs, mais le rôle des militants révolutionnaires, c'est de leur donner des perspectives et de leur montrer que dans la situation présente, c'est une question politique, c'est une question de changement de politique, et de changement de rapport de force, et qui concerne pas simplement telle catégorie ou telle catégorie, mais justement toutes les catégories ensemble, pas seulement la fonction publique, mais tous les travailleurs. Et c'est cette idée que, encore une fois, c'est la même politique, alors forcément sous des formes différentes selon les secteurs, mais c'est la même politique qui s'applique, et c'est une politique qui consiste à pomper le maximum d'argent, tout l'argent possible. Là, on parle des services publics, mais c'est pareil pour la classe ouvrière. On sait le recul de la masse salariale. Tout ça, c'est la même politique, et elle ne pourra être combattue que comme telle, et par les travailleurs tous ensemble quand ils s'y mettront.